Vous écoutez
RMC.
Et non, c'est Clara Gabillet qui est avec nous. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La paix en Ukraine passera-t-elle par la Chine? Emmanuel Macron en est convaincu et l'a fait savoir cette nuit au président Xi Jinping. Christophe Glaize reste en prison. La cour d'appel a confirmé la condamnation du journaliste français en Algérie à 7 ans d'emprisonnement. Et puis l'autopsie devrait dire ce matin si les trois jeunes avaient consommé du protoxyde d'azote au volant après ce grave accident mortel hier à Alès dans le Gard.
Emmanuel Macron tente de renouer le dialogue avec son homologue chinois.
Le président en visite officielle à Pékin pour parler des échanges commerciaux avec la Chine. Il insiste sur le besoin pour leurs deux pays de dépasser leurs différends. Emmanuel Macron qui a aussi pressé Xi Jinping d'agir sur la guerre en Ukraine.
Je crois que nous mesurons l'un et l'autre la gravité de la situation. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons une responsabilité particulière. J'espère que la Chine pourra se joindre à notre appel et à nos efforts pour parvenir dans les meilleurs délais à tout le moins un cessez-le-feu sous la forme d'un moratoire sur les frappes visant les infrastructures critiques. C'est clé pour l'hiver qui vient, puisqu'aujourd'hui, les infrastructures civiles et en particulier énergétiques sont toujours sous le feu russe. Mais plus largement, que nous arriverons à œuvrer ensemble pour cette paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international.
La France appelle à la libération de Christophe Glaize. Le journaliste français reste en prison en Algérie. Sa peine confirmée hier en appel, 7 ans d'emprisonnement pour apologie du terrorisme. La justice algérienne lui reproche son travail sur un club de foot kabyle. Christophe Glaize qui est donc emprisonné depuis juin. Martin Bourdin, ses proches se disent effondrés.
La confirmation de cette condamnation, Maxime Glaize, le frère du journaliste, l'a reçu sur son téléphone par SMS.
Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin. Il y avait des raisons d'être très optimiste. C'est vrai que c'est une journée assez triste. Quand ça vous touche personnellement, c'est un peu plus délicat.
D'autant plus triste, plus dur qu'aucun de ses proches présents au procès en Algérie, et notamment sa mère, n'a pu échanger avec Christophe Glaize.
Mes parents ont demandé de lui parler 5 minutes avant qu'il retourne en prison, ce qui n'a pas accepté. Mais il a fait un signe de cœur au loin. Donc ça veut dire que le combat continue.
Sécher ses larmes, reprendre le combat, message relayé aussi par l'organisation Reporters sans frontières, soutien du journaliste depuis le début de l'affaire.
Il y a un entêtement de la part de la justice algérienne qui continue à penser que d'avoir des contacts avec des sources pour un reportage, ça constitue une apologie du terrorisme. On marche sur la tête.
Thibaut Brutin, le directeur général de l'ONG.
Je demande au président de la République de recevoir sans tarder les parents de Christophe Glaize. Je pense qu'aujourd'hui, la faux compas, c'est une mobilisation de plus grande ampleur, quitte à ce qu'elle nous échappe. On en a sous la pédale, croyez-moi, et on va y aller.
Il demande aussi au maire d'afficher le portrait de Christophe Glaize sur le fronton des mairies et à l'ensemble du monde du foot de se prononcer en faveur de la libération du journaliste sportif.
Il écope d'un an de prison avec sursis. Un jeune homme de 23 ans condamné hier pour avoir profané la tombe de Robert Badinter il y a 2 mois, le jour de sa panthéonisation. Cet étudiant ingénieur qui se dit royaliste a reconnu les faits. L'université Lyon 2 annonce suspendre son enseignant accusé d'antisémitisme, un enseignant-chercheur qui avait qualifié, je cite, de génocidaire à boycotter 20 personnalités, dont une majorité de confession juive. Il est 7h04 sur RMC. Ont-ils consommé du protoxyde d'azote? C'est l'une des questions au cœur de l'enquête. Après ce grave accident à Alès, dans le Gard, hier, 3 jeunes de 14, 15 et 19 ans, morts hier matin. Leur voiture a raté un virage et terminé sa course dans la piscine d'une maison, la voiture entièrement retournée. Des bonbonnes de gaz hilarant retrouvées dans cette voiture. L'autopsie prévue ce matin devrait donner des premières réponses. En attendant, Anna Jojard, envoyée spéciale d'RMC à Alès. C'est toute une commune qui est sidérée.
À proximité de la maison où a eu lieu l'accident, les habitants se disent choqués, mais la plupart avouent ne rien avoir entendu dans la nuit à cause de la pluie battante. La plus jeune des victimes est un garçon âgé de 14 ans seulement, scolarisé dans un collège d'Alès. Deux de ses camarades ont appris sa mort par des amis.
C'est triste, on se voyait souvent. C'est un ami, quoi.
Je le connaissais un peu vite fait. Je suis choquée. Je suis triste pour lui parce qu'il est mort jeune. C'est dommage.
D'après le procureur d'Alès, les 3 victimes sont mortes noyées dans la piscine où le véhicule est tombé. Christophe Rivin, qui est le maire de la ville.
C'est terrible de perdre des enfants d'une ville, quelles que soient les circonstances. On ne sait pas qui conduisait le véhicule. L'enquête le dira. C'est à tout coup un drame de la route lié à la vitesse, à la chaussée mouillée et peut-être au fait que le conducteur ne maîtrisait pas totalement son véhicule à cette heure-là de la nuit.
Des bouteilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées à l'intérieur de la voiture, mais il faudra attendre le résultat des analyses toxicologiques pour savoir si elles ont été consommées. Le procureur d'Alès disait hier soir ne pas pouvoir affirmer qu'elles étaient à l'origine de l'accident.
Anna Jojard, envoyée spéciale d'RMC à Alès, dans le Gard. C'est une énergie qui suscitait beaucoup d'espoir pour l'avenir. L'hydrogène connaît déjà un coup d'arrêt en France. L'entreprise Symbio prévoit de supprimer plus de 350 postes sur les 530 actuels. Plan de restructuration présenté hier aux salariés de ce fabricant de piles à hydrogène. Vincent Chevalier, c'était pourtant une usine flambant neuve près de Lyon. Les salariés sont très inquiets.
Depuis cet été et le retrait de l'un des actionnaires, Stellantis, les employés attendaient la mauvaise nouvelle.
Forcément, on est assez déçus, quoi.
C'est le cas de Samuel, un technicien.
On s'est engagé dans ce projet-là, c'était plutôt parce qu'on y croyait. Et c'est vrai que c'est plus la déception de que ça s'arrête aussi vite.
Lors de leur réunion avec la direction hier, les syndicats ont eu la confirmation. 358 postes seront supprimés, selon Pierrick Balestrière.
On est à 70% de postes supprimés, c'est colossal.
Il est délégué syndical CFDT.
On va être à la table des négociations pendant 4 mois pour discuter de la future organisation et discuter des mesures pour accompagner les personnes qui vont partir.
Le départ de Stellantis a été un coup dur, mais d'après Vincent Guilly, secrétaire du comité social et économique, la direction a aussi évoqué un manque d'engouement autour de l'hydrogène.
On a des débouchés qui sont réduits quasiment à néant avec des petits programmes par-ci par-là, mais rien de très structurant en tout cas sur les années qui arrivent. On a sûrement été prêt trop tôt par rapport aux infrastructures à côté qui mettent plus de temps à s'installer.
Dans un communiqué, la direction l'assure, ce plan social est indispensable pour assurer la continuité d'exploitation et la pérennité de l'entreprise.
Ils sont en place depuis un an en France, les péages en flux libre, plus de barrières et donc un trajet plus fluide revendiqué par le gestionnaire, la SANEF, mais un paiement à régler en ligne ou dans un bureau de tabac dans les 72 heures. Et il faut être prudent puisque les arnaques sont nombreuses, Cassandre Brault.
Christophe prend régulièrement l'autoroute à flux libre et il y a quelques mois...
J'ai reçu un SMS en me disant que je n'avais pas honoré ma facture. Alors la première fois, vous allez voir si vous n'avez pas pris une prune et que vous n'avez pas reçu le courrier.
Après vérification de ses factures de péage, Christophe comprend qu'il est victime d'une arnaque. Aurélie aussi en reçoit souvent. Elle constate des messages de plus en plus personnalisés.
On a l'impression qu'ils sont bien ciblés au retour de vacances, par exemple, des choses comme ça. C'est assez souvent en fait, donc j'en ai un peu marre.
D'après la SANEF, le niveau de personnalisation pourrait venir d'une fuite massive de données chez l'un des principaux réseaux de contrôle technique en France, ce qui inquiète encore plus la mère de famille.
Peut-être mes coordonnées bancaires peuvent être transmises, ainsi que mon numéro de téléphone, des choses comme ça. On n'est pas à l'abri.
Face à la multiplication de ces arnaques, le lieutenant-colonel de gendarmerie Sophie Lambert du département prévention et cyber-résilience appelle à la plus grande vigilance.
Doutez à chaque texto que vous recevez et puis surtout, c'est de se dire, c'est potentiellement vrai, mais je vais quand même aller vérifier à la source sur le vrai site. C'est la chose essentielle à faire.
Si vous êtes victime, il faut vous rendre sur le site 17cyber.com. .gouv.fr pour signaler l'escroquerie et porter plainte.
Les explications de Cassandre Brault pour RMC.
Et ne manquez pas, à 7h40, le patron des autoroutes de la SANEF qui sera dans ce studio sur RMC. En attendant, j'attends vos témoignages. Ces autoroutes sans barrière de péage, est-ce que vous les empruntez? Est-ce que vous vous y êtes habitué? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Vos témoignages, non seulement au 3216, mais aussi sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. C'était le journal de Clara.